Bonjour à tous et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir donc Jean-Christian Petit-Fils pour son dernier ouvrage, Louis XV. Alors Jean-Christian Petit-Fils, on ne le présente plus dans la mesure où vous le connaissez tous, vous le connaissez au travers de ses très nombreuses apparitions à la télévision, vous le connaissez au travers de ses nombreuses biographies et en particulier cette série tout à fait remarquable puisque maintenant il a couvert désormais Louis XIII, Louis XIV, Louis XVI et donc avec l'ouvrage de ce soir, Louis XV. Donc nous allons pouvoir entrer directement dans le vif du sujet et je vais donc lui poser une première question. Le premier chapitre, tout à fait passionnant dans lequel qu'il intitule « Un roi de 5 ans hein. ». Effectivement, Louis XV a été roi à 5 ans, il n'était pas programmé à l'origine pour être roi, puisque Louis XIV était en réalité son arrière-grand-père. Cela suppose que l'enfance de ce tout jeune enfant, eh bien, en réalité, elle s'est déroulée dans un climat particulier, avec la mort de ses parents, la mort de Louis XIV, donc en 1715, donc toute une série de drames familiaux qui font que sa vie, la vie du jeune enfant, baigne dans un climat particulier. Ce qui amène donc ma première question sur les drames dans l'entourage de Louis XV.
Très bien. D'abord, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Alors, Louis XV. En effet, Louis XV commence sa vie par une série de drames. Il naît le 15 février 1710 et quelques mois plus tard, son grand-père meurt, le grand dauphin, fils de Louis XIV, meurt de la petite vérole, la variole, maladie terrible qu'il rencontrera à la fin de sa vie. Il n'a même pas 2 ans. Le 12 février, il va avoir 2 ans, 12 février 1712, sa mère, Marie-Adélaïde, duchesse de Bourgogne, et dauphine de France du fait de la mort de son beau-père, il perd immédiatement après le duc de Bourgogne, Louis, duc de Bourgogne, dauphin. Il perd son frère aîné, le petit duc de Bretagne, tous atteints d'une probablement scarlatine infectieuse qui courait à Versailles. Et puis, le 1er septembre, c'est la mort de Louis XIV, à 77 ans presque. Il meurt de la gangrène aux jambes. Après 72 ans de règne, 54 ans de règne personnel. Donc le voilà roi à 5 ans. C'est un garçon d'abord très, très beau, des beaux yeux noirs, cheveux châtains, magnifique enfant, l'orphelin de l'Europe, dira l'empereur du Saint-Empire, en même temps, un garçon très, très timide, secret, réservé, on le verra plus tard, mélancolique, boudeur. On a beaucoup de mal à communiquer avec lui. Il ne parle pas. On lui adresse la parole. Il se tait. C'est un garçon extraordinairement timide. C'est surtout ça le point central. Dès qu'un visage nouveau apparaît, il se referme sur lui-même. Donc, il vit vraiment une enfance difficile. Et on pourrait dire que son problème, ce sera un problème de résilience. Il va falloir qu'il surmonte toutes ces difficultés, les difficultés de la petite enfance. Et en plus, il est roi. Et être roi, ça n'arrange rien de ce point de vue, puisqu'on a beaucoup de déférence à son égard, mais en même temps, ça l'isole davantage des autres humains. Il va être couronné et sacré à Reims, donc il va recevoir l'onction de Reims, et donc il devient un personnage presque devenu du ciel pour ces populations qui vénèrent profondément le roi en ce début du XVIIIe siècle.
Donc dans ces conditions, une enfance difficile, un roi tout jeune à 5 ans, son éducation est particulièrement importante. On connaît l'importance de l'éducation de son prédécesseur, Louis XIV, sur lequel Mazarin avait énormément veillé. Alors, qui va veiller sur l'éducation de Louis XV ?
Alors, ils vont être plusieurs. D'abord, au début, il y a Madame de Ventadour, gouvernante des enfants de France, une femme très dévouée, généreuse, qui va s'occuper beaucoup de ce petit, qui va d'ailleurs le sauver. C'est elle qui le sauvera de la mort, parce que quand les médecins vont, après avoir saigné le petit duc de Bretagne, vont vouloir saigner à nouveau le futur Louis XV, eh bien là, elle va s'y opposer et c'est au fond ce geste qui va sauver ce roi, parce que les médecins ont précipité la mort des parents et puis du frère aîné par leur traitement terrible de cette époque. Donc, il est élevé par Madame de Ventadour. Par derrière, il y a Madame de Maintenon, qui est toujours active quand il s'agit d'éducation. On voit au début un enfant boudeur, capricieux. En 17 février 1717, il passe aux hommes, comme on dit, c'est-à-dire qu'il perd sa gouvernante et il est sous l'autorité d'un gouverneur qui est le maréchal de Villeroy, vieillard, vénérable, ami d'enfance de Louis XIV, qui a passé son temps à collectionner les défaites sur les champs de bataille et qui est un homme connaissant à la perfection tous les usages de la cour. Et l'idée essentielle, évidemment, c'est de faire de Louis XV un clone de Louis XIV. En tout, il faut imiter le grand roi, qui est en quelque sorte le fondateur d'un système, le créateur de Versailles, évidemment, et aussi quasiment un fondateur de dynastie, ce qu'il n'est pas dans la réalité, mais c'est ainsi. Par conséquent, le grand roi prenait la moitié d'un œuf frais, eh bien, il fallait que le petit roi en fît autant. Le grand roi avait l'habitude de couper les bouts des ailes des perdrix et des faisans. Eh bien, Sa Majesté était priée, Louis XV était prié d'en faire autant. Le grand roi s'était produit dans sa jeunesse dans les salles de bal, et il dansait, et c'était un merveilleux danseur. Et on avait d'ailleurs utilisé son goût, Mazarin très intelligemment avait utilisé ce goût de la danse pour rassembler autour de lui la jeunesse, les descendants des frondeurs, les fils des frondeurs. Donc il y avait un rôle très politique. Eh bien, Villeroy, on n'a plus besoin à ce moment-là, il n'y a plus de frondeurs, mais on a besoin de produire le roi, c'est Villeroy qui le produit. Et le petit Louis XV a horreur de la danse. Donc on est une éducation très étroite, très bornée du côté du maréchal de Villeroy. Heureusement, il y a le précepteur, Monseigneur de Fleury, évêque de qui est devenu précepteur du roi à la demande de Louis XIV et qui a été poussé par les milieux hostiles au jansénisme. Il s'occupe de... Il lui apprend l'histoire-géographie, les sciences, il lui réserve une petite imprimerie pour faire des travaux d'imprimerie, et surtout, on lui donne bien entendu une éducation religieuse très sérieuse, très poussée. Il faut imiter sans doute le grand roi, mais pas dans les guerres. C'est ce que d'ailleurs Louis XIV avait dit sur son lit de mort. Et ce que lui répète l'évêque de Fréjus, devenu donc monseigneur de Fleury. Il y a également, nous sommes sous la régence, Philippe d'Orléans, le régent, personnage très, très intelligent, habile, et puis son ami et complice en quelque sorte, le cardinal Dubois, qui vont lui donner des leçons politiques, et qui vont écarter au bout d'un certain temps d'ailleurs le maréchal de Villeroy qui s'oppose à eux. Et là, les leçons, la formation du roi sera très sérieuse.
Vous venez de parler de la régence de Philippe d'Orléans. Les deux prédécesseurs de Louis XV avaient connu également cette période de régence. Traditionnellement, la régence connaît un certain affaiblissement du pouvoir central. Ça va être le cas avec Louis XV, avec en particulier une réaction aristocratique. Alors, à mon avis, on a trop minoré d'ailleurs la domestication, avec beaucoup de guillemets, de la noblesse sous Louis XIV, puisque une protestation nobiliaire très forte s'était quand même développée. On connaît Saint-Simon en particulier, ou Fénelon. Mais avec la régence de Louis XIV, avec la régence de Philippe d'Orléans, on observe une très nette réaction aristocratique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette régence de Philippe d'Orléans ?
Tout à fait. Alors, ça commence par une erreur politique très grave de Louis XIV, le testament de Louis XIV, pris sur l'influence de Madame de Maintenon, qui veut favoriser son enfant chéri, en quelque sorte, en tout cas celui qu'elle a élevé, le duc du Maine, qui est un bâtard de Louis XIV et de Madame de Montespan. Elle voudrait lui faire confier des fonctions politiques importantes. Et Louis XIV, sous la pression de Madame de Maintenon, accepte, signe un testament. Il dira, on y a forcé, on l'a voulu, il viendra ce qu'on voudra, mais voilà, j'aurai la paix au moins. Donc on voit dans quel état d'esprit il est. Ce testament instaure un conseil de régence avec un président du conseil de régence qui est le neveu du roi, Philippe d'Orléans, le fils de monsieur, frère du roi, à qui revient de droit la régence selon la tradition monarchique déjà bien établie à ce moment-là. Il n'est que président du conseil de régence. Et par ailleurs, le duc du Maine est surintendant de l'éducation du futur roi, Louis XV, et également commandant des troupes de la maison du roi. Donc c'est une dissociation du pouvoir politique extrêmement grave, c'est une erreur politique indiscutablement de Louis XIV. Le régent, futur régent, très habilement, comprend la situation, on l'informe de la teneur de ce testament, qui est évidemment très secrète, mais il en connaît la teneur, et il est obligé, évidemment, de s'allier avec tous les opposants à Louis XIV, les jansénistes, les membres du Parlement, et aux membres du Parlement, il va promettre la restitution du droit de remontrance. À la noblesse, la grande noblesse, la haute noblesse, qui avait mal supporté la centralisation monarchique et ce que vous avez appelé la domestication de la noblesse, qui en fait, oui, ne visait que la haute noblesse. Il s'agissait d'attirer une partie, pas toute la noblesse, il y avait plus de 200 000 nobles sous Louis XIV, une partie de la noblesse à Versailles, et évidemment les éléments les plus représentatifs. Eh bien, à ce moment-là, donc le futur régent s'entend avec les ducs et pairs, leur disant, on va, ne vous inquiétez pas, ça sera fini de ce gouvernement absolu, on va rétablir un système de conseil qui vous permettra de participer aux affaires. C'est ainsi que commence cette régence, sous la contrainte, en quelque sorte, de ce testament. Le Parlement écarte, en effet, les dispositions du testament de Louis XIV et en remerciement, en quelque sorte, reçoit ce qu'on appelle le droit de remontrance que Louis XIV avait supprimé pendant son règne en 1667 et surtout en 1673. Il y avait des règlements qui interdisaient au Parlement de faire des remontrances ou ne l'autorisaient à leur faire que dans des cas très limités. Les remontrances, c'était la faculté pour le Parlement qui n'est pas un organe représentatif, c'est un organe judiciaire. Ce sont des juges qui sont propriétaires de leurs charges, par conséquent très indépendants par rapport au pouvoir royal. Ils ont des offices, ce qu'on appelle un office, et ces gens, eh bien, donc, avaient la faculté, quand il s'agissait d'enregistrer les édits royaux, de vérifier s'ils étaient conformes au corpus des textes monarchiques, la faculté de faire des observations ou des remontrances plus ou moins sévères, montrant au roi qu'il s'égarait, montrant tout ça dans des termes très respectueux, bien entendu. Mais À partir de ce droit de remontrance, les parlements, déjà au XVIe, mais surtout au XVIIe siècle, et en particulier du temps de la Fronde, avaient cherché à obtenir un pouvoir supplémentaire. Et il y avait un vieux rêve de ces conseillers, c'était une sorte de gouvernement des juges associé à la monarchie française. Et cela, évidemment, aucun des souverains bourbons ne peuvent l'admettre, même Louis XVI ne l'admettra pas, jusqu'à la Révolution en tout cas. Donc, cette régence va commencer par une réaction aristocratique, parce que le régent, qui n'est pas en fait un partisan du système de la monarchie limitée, mais qui est plutôt un homme de la monarchie administrative et autoritaire, eh bien, se trouve lié par les engagements qu'il a pris pour écarter le testament de Louis XIV. Donc, cette réaction, ça va être ce qu'on appelle la polysynodie, c'est-à-dire un gouvernement des conseils. Et donc, sous ces messieurs, les princes du sang, les ducs et pairs vont deviser, vont parler. On a des comptes rendus de toutes ces réunions, remplacent les secrétaires d'État. C'était donc le système mis en place par Louis XIV et oblige en particulier les conseillers et surtout les maîtres des requêtes qui appartiennent à la noblesse de robe à faire leur rapport debout devant eux. Alors ça, leur majesté, leur grandeur ne peuvent tolérer que ces gens de la noblesse de robe puissent les égaler. Et donc, ce gouvernement, c'est un gouvernement qui va conduire évidemment à la paralysie, à l'inaction, et très rapidement, Philippe d'Orléans s'en débarrassera. Voilà ce que c'est que cette réaction de Mire qui ouvre en effet le règne de Louis XV, la minorité de Louis XV.
Et alors, après la régence, il y a le long gouvernement du cardinal de Fleury qui va durer 17 ans, André Hercule de Fleury, dont vous avez d'ailleurs déjà prononcé le nom au moment de son éducation. Alors, qui est Fleury? Quel est son rôle et à quoi correspond cette période?
Alors, Fleury, c'est un bon administrateur. Il l'a montré quand il était à Fréjus, exilé un peu par des manœuvres de cour. Il est très ambitieux. Tout sous des airs modestes, il a beaucoup d'orgueil. Et il gouverne assez bien la France. C'est vraiment une période très tranquille. On a l'impression presque que le système se poursuit, le système Louis XIVien se poursuit. Il n'est pas Premier ministre, parce qu'on a dit, selon le principe de Louis XIVien, qu'il n'y aurait plus de Premier ministre, donc il n'est pas Premier ministre, mais il est en fait principal ministre. Tout se tient et tout se déroule chez lui, tout se décide chez lui. Et Louis XV, le jeune Louis XV, est associé, bien entendu, aux décisions, mais c'est quand même le cardinal qui gouverne. Ce cardinal impressionne le jeune roi, qui est à ce moment-là dans son adolescence, impressionne aussi parce que c'est un cardinal romain, donc un homme d'église, que le jeune Louis XV est un garçon très pieux, et donc ça ajoute évidemment à une sorte de soumission du roi aux décisions du cardinal de Fleury. Tout se passe comme si l'ancien régime, l'ancien système Louis XIVien se poursuivait jusqu'en 1743. En réalité, les choses sont très différentes dans les soubassements, dans les profondeurs, dans les plaques tectoniques bougent. En 1728, par exemple, c'est qu'apparaît ce qu'on pourrait appeler l'opinion publique comme une puissance véritable. Alors, il est évident que l'opinion publique a toujours existé sous le règne des rois, sous la monarchie absolue aussi. Il y a eu des grandes poussées de l'opinion au moment de la régence de Marie de Médicis, donc sous Louis XIII, avec des pamphlets contre Concino Concini, qui était le conseiller de la régente. Il y en aura, bien entendu, vous le savez, sous la Fronde, avec les Mazarinades, donc ces pamphlets qui circulaient secrètement contre le pouvoir. Mais rapidement, le pouvoir politique se rétablissant, l'opinion disparaissait. Alors, elle existait toujours dans des cercles de cours, dans les salons littéraires, mais ce n'était pas une puissance. 1728, c'est un changement. Pourquoi ? Parce que, à ce moment-là, paraît une petite gazette clandestine, imprimée, qui s'appelle Les Nouvelles Ecclésiastiques, et qui va connaître une vie très longue, puisqu'elle ne disparaîtra qu'en 1802. C'est une gazette janséniste qui va s'opposer au pouvoir royal, discrètement, plus directement, s'opposant à l'Église officielle, hostile au jansénisme. Ça circule dans les milieux des parlements, bien sûr, car le courant janséniste est très fort à ce moment-là et se marie au gallicanisme, c'est-à-dire cette idée d'une Église bien très autonome par rapport à Rome. Et ça atteint aussi les milieux populaires. On en parle, on discute de ce petit journal. On pourrait presque dire que c'est le premier réseau social qui conduit à la cristallisation d'une opinion. Et cette opinion, elle devient durable. Et elle va se transformer peu à peu, à partir de la mort de Fleury, il faut le dire, en un tribunal de l'opinion jugeant la monarchie. Et là, le pouvoir royal se trouve désarmé. Le système de communication de la monarchie, c'est un système vertical, descendant du haut vers le bas. C'est le faire savoir. Le roi ou le cardinal, quand il s'agissait des cardinals de Fleury, eh bien, procède à des tédéum. Donc on fait chanter un tédéum à Notre-Dame pour une victoire, pour une naissance royale, pour célébrer tel et tel anniversaire, telle et telle fête royale. Le roi tient lit de justice. Il vient en son parlement, au milieu de ses conseillers, qui ne sont que des conseillers, et là impose par sa volonté un édit en dépit des remontrances qui ont été faites. Les remontrances, évidemment, ne sont pas, n'ont pas un caractère de blocage total, mais ça freine malgré tout le travail législatif. Ce sont des entrées royales, le roi entre dans sa bonne ville, tout ça s'accompagne de fêtes, de réjouissances, de défilés de troupes, de mousquetaires, de chevaux légers, donc il y a une communication verticale, la monarchie se montre. Mais face à un mouvement d'opinion, bien, elle a du mal à gérer cette communication verticale. Donc on voit ces changements qui apparaissent, réaction nobiliaire, donc volonté très profonde, qui va se poursuivre au-delà de la polysynodie et au-delà de la régence, de la part de la haute aristocratie, qui veut revenir sur les acquis du règne de Louis XIV, c'est-à-dire la centralisation de la France. Alors aujourd'hui, l'idée de centralisation n'est pas très bien accueillie, on aime bien la décentralisation, et surtout à Bordeaux, on aime bien les Girondins. Mais il faut bien voir que la France de cette époque, ce n'est pas du tout la France d'aujourd'hui. La moitié de la population française ne parlait pas le français. Les provinces avaient des statuts différents. Il y avait des provinces où il y avait une représentation de la noblesse, du clergé et du tiers-état, donc ce qu'on appelait des pays d'État. Et puis il y avait d'autres qu'on appelait les pays d'élection où il n'y avait pas cette représentation. Il y avait une diversité de corps, d'ordres, de statuts différents. Et il était absolument nécessaire de forger cette France. La Révolution fera la table rase, mais la monarchie, elle, a progressivement, doucement, pas toujours facilement, avec des avancées, avec des reculs, avec des compromis, elle a tenté cette centralisation. Donc c'était quelque chose de très utile. Eh bien, la noblesse, la haute noblesse, veut revenir en fait à un système féodal, à un État féodal. Et c'est à partir de ce moment-là, un petit peu, alors on dépasse un peu le règne de Fleury, mais quand même, qu'apparaissent les Lumières. Et donc, là, il va y avoir un étrange mariage entre cette réaction aristocratique, président de Montesquieu en faisait partie, et puis les Lumières, c'est-à-dire l'idée de liberté. Et la haute noblesse confondra très facilement la liberté avec les libertés, c'est-à-dire les privilèges.
Alors, Louis XV, on va revenir sur lui, et il a grandi, on a parlé beaucoup du jeune enfant, c'est peut-être le moment de nous intéresser un petit peu à son portrait physique. Il y a dans le livre beaucoup d'iconographie, une très très belle iconographie, beaucoup de portraits, certains très connus, d'autres un petit peu moins. Je pense en particulier au très beau portrait d'Hubert Drouet. Est-ce que vous pourriez très rapidement évoquer le portrait du roi ?
Alors, c'est un homme grand, très beau, je le disais, avec de beaux yeux noirs, un beau visage, mat. Il plaît beaucoup, beaucoup aux femmes, mais tous les ambassadeurs notent cette élégance, cette majesté naturelle qu'il a. Il a gardé, évidemment, son caractère timide. Il est toujours créatif devant de nouveaux visages. Mais c'est un roi attachant pour celui qu'il connaît, intelligent, voyant très vite les problèmes, saisissant rapidement les choses, devinant même sur la bouche de ses interlocuteurs ce qu'ils veulent dire. Cultivé, passionné par les sciences, par les découvertes, donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout replié sur une vision passéiste des choses, les découvertes, les grands voyages. C'est aussi quelqu'un qui est naturellement bon, en petite société, au milieu de ses amis, de quelques jolies femmes qu'il invite dans ses petits appartements, eh bien, c'est peut-être le meilleur homme du monde, le plus charmant. Quand il est en public, quand il est en représentation, il est plus raide. Quand il reçoit le premier président du Parlement avec une délégation de conseillers venus présenter des remontrances ou des remontrances itératives, c'est-à-dire qu'on recommence malgré le refus du roi des premières remontrances, là il est raide. Cassant, il a une voix qui s'éraille tout d'un coup et il montre en tout cas sa volonté et sa fermeté. Malgré cela, il sera d'une indulgence, on pourrait dire excessive, à l'égard de ces parlements qui toujours cherchent constamment la faille et voudraient, au fond, instaurer ce gouvernement des juges dont ils ont rêvé sous la fronde. Voilà en gros le portrait qu'on peut faire. Il reste secret, toujours secret, passionné de politique, contrairement à ce qu'on dirait. Il s'est tu en grande partie sous le gouvernement de Fleury, mais la politique l'intéresse. Bien sûr, avant, la chasse passe presque avant. La chasse, c'est trois, quatre fois par semaine. C'est un moyen de se détendre, de se défouler, d'exister face aux rigidités de la cour, à tout ce système qui lui pèse. Contrairement à Louis XIV, Louis XIV aimait la mécanique curiale. Eh bien, Louis XV ne l'aime pas trop. Il va développer ce qu'on appelle les petits appartements à Versailles, qui sont magnifiquement décorés parce que c'est un homme de goût, un homme qui a joué un très grand rôle avec, bien sûr, Madame de Pompadour, mais lui-même, pas lui-même, il a un goût exquis et excellent. Eh bien, il s'intéresse à la politique, il se passionne, il s'intéresse à ce métier de roi, même s'il n'occupe pas parfaitement ce qu'on a appelé le double corps du roi. Un exemple, c'est le secret du roi. Le secret du roi, c'est tout un système de diplomatie parallèle, ignoré des ministres, ignoré des maîtresses, y compris Madame de Pompadour, y compris plus tard de Madame du Barry, et qui tente quasiment à jouer son propre jeu, système d'information, avec un réseau d'informateurs secrets dans toute l'Europe. Et puis, au centre de ce secret du roi, c'est la Pologne, l'idée de constituer une monarchie où on mettrait un prince français, le prince de Conti. Alors, le secret du roi va parfois à l'encontre des décisions du ministre, du secrétaire d'État aux affaires étrangères. Louis XV vit un peu dans un système de contradictions permanente, mais ça montre qu'il s'intéresse, qu'il se passionne pour la politique.
Alors, vous venez de le dire, il plaît, et il plaît particulièrement aux femmes. Alors là, tout le monde, bien sûr, vous attend, Louis XV et les femmes. D'abord, la reine, qui est polonaise, fille du roi de Pologne, Stanislas Ier, Marie Leszczynska, et puis les non-officiels. La liste est longue, demoiselle de Nesle, vous avez parlé de Madame de Pompadour, de Madame du Barry. Que peut-on dire donc des rapports entre Louis XV et les femmes ?
Alors, Très vaste sujet, en effet. Au début, Louis XV, faut le rappeler, avait été fiancé avec la fille du roi d'Espagne, Philippe V, sa cousine, fille de la seconde et sa seconde épouse, Elisabeth Farnèse, Marianne Victoire. Il avait 11 ans et la petite qu'on a fait venir à Versailles en avait 3. Et elle s'est. Alors l'idée, c'était de l'éduquer à la française. Et puis, quelques années plus tard, eh bien, de proclamer les fiançailles officielles, signe de l'union des deux monarchies, parce que ça, c'est une des constantes de la politique étrangère française depuis Louis XIV, depuis 1700, depuis l'acceptation par Louis XIV du testament de Charles II, roi d'Espagne. C'est, il y a une monarchie bourbonienne en France et il y en a une autre en Espagne. Et la France, d'ailleurs, s'est épuisée à soutenir, par la guerre de succession d'Espagne, cette monarchie avec Philippe V à sa tête, donc petit-fils de Louis XIV. Donc, il y a eu des hauts, des bas. Là, un des signes de la réconciliation franco-espagnole, c'est ce projet de mariage. Cela va échouer parce que le roi est de santé fragile, on ne l'a pas suffisamment dit, une santé très délicate. Et le duc de Bourbon, qui va gouverner après Philippe d'Orléans, va estimer qu'il ne faut pas trop attendre pour marier le roi. Or, la petite n'a que 3 ans quand elle arrive en France. Et donc, il faut changer de politique. Il faut trouver une jeune fille susceptible d'avoir très rapidement des enfants. Alors le duc de Bourbon avait bien sûr aussi des intérêts personnels dans l'affaire, dans la mesure où si le roi, le jeune roi mourait, eh bien c'était la branche des Orléans, le fils du régent, qui devenait roi de France. Et lui, qui était un condé, était mis à l'écart. Il y avait une mésentente foncière entre les Orléans et les condés. Il y avait des luttes d'influence très vives au sein de la cour. Donc l'idée, c'est de marier le roi et puis finalement de se faire une alliée de cette nouvelle reine de France. C'est la grande idée de Madame de Prie, qui est la maîtresse du duc de Bourbon et qui manipule beaucoup le duc dans sa politique intérieure et extérieure. Donc on va chercher une candidate. On va tracer une liste, 99 candidates, les princesses possibles. Alors on les écarte, beaucoup, on en écarte beaucoup. Des huguenotes, il y en a certaines qui sont laides, qui ont des familles douteuses, qui n'ont pas la dignité suffisante pour épouser un roi de France. On en retient 17, finalement. Et sur les 17, on en élimine encore un très grand nombre. Et finalement, on revient, après l'avoir éliminé, à une petite princesse catholique, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de princesses catholiques, il y avait beaucoup de protestantes, on avait pensé aussi aux filles du roi d'Angleterre, monsieur le duc, donc le duc de Bourbon, lui poussait secrètement ses sœurs, mais là, c'est évidemment, il y avait l'opposition des Orléans, mais donc on tombe d'accord sur cette Marie Leszczynska, fille d'un roi de Pologne détrôné, Stanislas Leszczynski, de 6 ans et demi plus âgé que le Louis XV, pieuse, timide, effacée, et le mariage donc aura lieu en 1725. Louis XV est ravi, c'est le moment où il a 15 ans, il découvre l'amour physique, elle l'aime, mais elle est extrêmement timide aussi, et la distance s'instaure assez rapidement entre eux, elle a du mal à s'affirmer, c'est une femme dévote, un peu provinciale, sans grande prestance, elle vit dans son cercle d'amis, mélomane, on aime la littérature, mais elle se replie. Elle donnera 10 enfants au roi, 8 filles, 2 garçons, Alors, je vous énumère pas les filles, Elisabeth, Henriette, Louise. On aura beaucoup de mal à les marier. Il n'y en aura qu'une qui sera finalement mariée. Quatre d'entre elles iront faire leurs études à Fontevraud, parce que le cardinal de Fleury, extrêmement économe, considère qu'on ne peut pas, avec tant de filles, créer des maisons à l'intérieur de Versailles avec gouvernants, gouvernantes, domestiques. Une maison, c'est 400-500 personnes, 400-500 domestiques. Donc, il aurait fallu doubler ou tripler le château de Versailles. Donc, on les envoie à Fontainebleau. Louis XV, finalement, accepte par soumission à l'égard de... Là, on peut dire qu'évidemment, il manque d'amour paternel. Mais c'est pour le bien de ces jeunes filles. Alors, il y a seule Madame Adélaïde qui résiste, qui dit non, pas question, et Louis XV accepte de garder Madame Adélaïde. Donc, pendant longtemps, il faut dire, Louis XV, homme très pieux, dévot pendant longtemps, reste fidèle à sa femme. Et puis, les choses évoluent, il a indiscutablement des besoins sensuels très affirmés. En 1732, il surprend parce qu'il lance un toast à l'inconnu, puis casse son verre. Qu'est-ce qui se passe? À l'inconnu, quel inconnu? En fait, il n'a probablement personne à ce moment-là, mais il a envie de sauter le pas, il a envie d'avoir une expérience avec une autre femme. Et c'est un petit peu plus tard, probablement un an plus tard, que Louise de Mayinel va devenir sa maîtresse, une femme, elle aussi, discrète, effacée, timide, qui n'apparaîtra pas au grand jour, en tout cas au début. Il y aura ensuite une deuxième sœur, donc sœur de Louise de Mayinel. En fait, il y a cinq filles de Mayinel et cinq filles Mailly. Eh bien, sur les cinq, quatre seront les maîtresses de Louis XV. Louis XV, on voit là aussi l'homme timide, prend dans une famille de l'aristocratie d'épée une maîtresse, un peu comme les aristocrates eux-mêmes avaient fait très facilement leur maîtresse à côté de leur épouse officielle. Louise de Mailly n'est pas belle, donc on voit aussi cet homme qui a besoin de s'habituer aux femmes, et c'est seulement au bout d'un certain temps que la plus belle d'entre elles, Marianne de la Tournelle, qui est représentée par Nattier dans un tableau célèbre, Le Point du Jour, femme ambitieuse mais sensuelle, capricieuse, eh bien deviendra la favorite officielle, et elle deviendra duchesse de Châteauroux. Elle mourra très très rapidement, et c'est à ce moment-là que apparaîtra quelque temps un petit peu après une jeune dame, une jeune femme, Jeanne-Antoinette Poisson, qui a épousé un certain Guillaume Lenormand d'Étiolles, qui se très jolie, très ambitieuse, charmante, adorant la musique, cultivée, intelligente. C'est notre future marquise de Pompadour, qui va jouer un rôle très important à la cour de France, s'occupant d'animer un petit théâtre, d'animer des soupers de petits cabinets, prenant une place très importante à la cour. Alors, elle est rejetée, évidemment, parce qu'elle appartient à un milieu de la noblesse de finance. Et il y a trois noblesses. Il y a la noblesse d'épée, vieille aristocratie française qui considère que le roi, finalement, c'est le primus inter pares. C'est pas, il se considère parfois plus ancien que de noblesse plus ancienne que les Capétiens. Madame de Montespan se moquant de la fraîche date de la noblesse royale. Elle, une Rochechouart de Mortemart, par exemple. Ça, c'est sous le règne de Louis XIV. Mais cette vieille noblesse, il y a la noblesse de robe dont je vous ai parlé. La noblesse des conseillers du Parlement qui achètent des charges et puis qui, au bout d'un certain temps, sont anoblis. cette noblesse d'Europe, Louis XIV, vous savez, l'a poussé, l'a élevé contre la noblesse d'épée, parce qu'il s'agit toujours de jouer un jeu subtil, complexe, pour assurer, asseoir le pouvoir d'État. Et puis, il y a la troisième noblesse qui apparaît au XVIIIe siècle, c'est cette noblesse de finance, celle des munitionnaires, des traitants, des partisans, qui est très ambitieuse et excessivement riche, et qui se marie avec la noblesse d'épée, avec la noblesse d'Europe, et toutes ces noblesses, eh bien, vont aussi s'opposer au pouvoir royal, se rejoindre dans le même combat contre la monarchie absolue. En tout cas, cette jeune femme, tout à fait remarquable et intelligente, joue un rôle essentiel pendant de nombreuses années à la cour. Elle est haïe par les enfants royaux. On l'appelle la bestiole, on l'appelle maman putain, c'est les surnoms donnés par notamment Louis Ferdinand, le dauphin, qui, avec Marie Leszczynska, complote, cabale contre elle. Et puis viendra après. Alors cette femme, elle a un grand sens artistique, elle est très, très, très intelligente, mais elle est plutôt pas très portée sur l'amour physique, il faut le dire, plutôt frigide. Et elle sera seulement 4 ans maîtresse du roi, et après, eh bien, pour continuer son règne, pour occuper le roi dans un tourbillon de jeux, d'amusement, de plaisir. Ce roi, souvent dépressif, mélancolique, c'est un combat terrible pour elle. Elle s'en plaint dans sa correspondance, mais elle a envie, c'est un besoin de pouvoir. Eh bien, elle va peu à peu devenir l'entremetteuse, permettant, avec le valet de chambre, le bel, la constitution d'un réseau de jeunes demoiselles, de grisettes. Ce ne sont pas des prostituées, mais ce sont des filles de petite vertu, des très jeunes filles. Notamment, une va être assez célèbre, Marie-Louise O'Murphy, qui est une petite couturière. Alors, toutes ces jeunes filles, parfois ont des enfants naturels que le roi ne reconnaît pas. Et puis, on s'en débarrasse souvent, alors soit en les mariant, soit en leur donnant une tabatière avec un rouleau d'or. Donc Louis XV aura 9 enfants non légitimés. Alors à partir de là, les historiens, les auteurs d'historiettes ont beaucoup fantasmé. On a parlé de ces orgies du parc aux cerfs. C'était une petite maison où Louis XV allait voir ses maîtresses dans un quartier de Versailles très, très discret. On est allé très, très, très au-delà de la réalité, semble-t-il. On en a fait un roi pédophile. Enfin, on a tout dit sur Louis XV et sur ses petites maîtresses. 9 enfants naturels, par rapport à Henri IV, c'est vraiment pas grand-chose. Par rapport à Louis XIV aussi. Mais justement, le changement, c'est l'opinion. L'opinion publique est plus ou moins au courant de tout ce qui se passe. Et la condamnation morale de Louis XV par l'opinion pèse énormément dans la balance. Louis XIV n'avait pas cette condamnation. Quand Louis XIV allait se promener dans les Flandres avec la reine Marie-Thérèse, et puis qu'il emmenait dans son carrosse Madame de Montespan, Mademoiselle de la Vallière, les paysans ébahis disent « Nous allons voir les trois reines !» Mais après, au XVIIIe siècle, eh bien là, quand la duchesse de Châteauroux est expulsée de Metz après la grave maladie du roi en 1744 et à la demande de Monseigneur de Fitz-James qui ont obligé le roi à se séparer de ses maîtresses parce qu'il voulait recevoir l'extrême onction et avant de recevoir la communion, eh bien ces femmes, ces deux femmes, Madame de Lauragais, sa sœur, et puis la duchesse de Châteauroux s'en vont dans les villages et la nouvelle court très très vite, on leur jette des pieds, on les rejette. Donc l'opinion publique, c'est très important pour comprendre pourquoi ce roi a été vilipendé, alors que finalement, son comportement n'est pas tellement différent de celui de Louis XIV et d'Henri IV.
Alors néanmoins, est-ce que, par exemple, Madame de Pompadour, est-ce qu'elle a eu un rôle politique, une influence politique C'est quelque chose qui est avancé.
Alors, oui, alors j'ai oublié de parler de la dernière, qui est évidemment Madame du Barry, qui est une femme, alors vraiment une demi-mondaine, qui a été poussée, plus ou moins prostituée par son mari, Guillaume du Barry, qui est par son amant, Jean du Barry, qui lui fait épouser son frère, Guillaume. Bon, elle, c'est une femme tout à fait charmante du point de vue de la vie, à la cour, qui s'adaptera beaucoup plus facilement même que de Madame de Pompadour, et qui jouera, alors elle aussi, en tout cas dans les écrits des historiens, un rôle politique. Alors ce rôle politique, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bien, Madame de Pompadour avait, au fond, codifié la fonction de favorite. Alors les grands la courtisait, venait dans son cabinet où elle se préparait, se pomponnait, et puis présentait leurs demandes. Car le rôle d'une favorite, évidemment, c'est de jouer les intermédiaires entre le roi et puis tous ces courtisans qui, malgré les mépris qu'ils portent à la condition sociale de cette favorite, ont besoin des bienfaits du roi. Car les bienfaits du roi, ce sont les gratifications, les pensions, les bénéfices ecclésiastiques. Il faut plaire au roi. Et donc, Madame de Pompadour passe pour celle qui centralise tout cela. Il faut comprendre, et souvent les historiens n'ont pas compris ce mécanisme et cette volonté de Louis XV. C'est Louis XV de rester en arrière, rester en retrait. Et par conséquent, il utilise Madame de Pompadour. Il rejette un certain nombre de demandes qu'il lui présente. Il garde, au fond, sa liberté en la mettant en avant. Mais le fait de la mettre en avant, évidemment, c'est une extrême maladresse dans une monarchie où le roi doit être présent, où le roi doit être là. Louis XV fait toujours ses jeux, de temps en temps il apparaît, brusquement il disparaît dans ses petits appartements, on ne sait pas où est le roi, alors que sous Louis XIV, Louis XIV menait une vie en public. Alors de temps en temps il allait à Marly, c'est vrai, il allait au Grand Trianon, mais il y avait une vie. Avec Louis XV, on n'a pas du tout ce même système, mais quand il réapparaît, quand il prononce des disgrâces foudroyantes, eh bien là, il affirme son autorité. C'est l'autorité d'un timide, mais c'est tout de même une autorité, et il n'est pas l'esclave de ses maîtresses sur le plan politique, et il n'est pas l'esclave non plus de ses ministres, comme on le pense. Alors, il y a eu le grand thème, notamment ce qu'on appelait le renversement des alliances, quand la France va quitter l'alliance prussienne pour se rapprocher de l'Autriche de Marie-Thérèse, donc l'ennemi héréditaire, eh bien, le chancelier Kaunitz approchera Madame de Pompadour, la fera approcher par l'ambassadeur Starenberg. Mais Madame de Pompadour prêtera sa petite maison de Babiole pour des entretiens particuliers auxquels participeront Starenberg et Bernitz, mais elle-même ne sera pas liée à cette politique, ne participera pas du tout, c'est pas une tête politique. Mais on a cru comprendre que c'était elle qui avait décidé le renversement des alliances, de la même manière que on a cru au siècle précédent que c'était Madame de Maintenon qui avait décidé la révocation de l'édit de Nantes. Là aussi, c'est une grosse erreur d'appréciation. Donc non, ces maîtresses sont le centre et sont l'enjeu de lutte des factions. C'est très clair du temps de Madame du Barry, avec Choiseul hostile parfaitement au clan du Barry, mais ce ne sont pas des têtes politiques qui mènent la France.
Alors, cette période, et on l'oublie aussi parfois un petit peu, est une période de guerre. Guerre de succession d'Autriche, guerre de 7 ans, guerre de succession d'Autriche, avec en particulier la victoire de Fontenoy, qui était d'ailleurs représentée sur le bas-relief qui ornait la statue royale de Louis XV à Bordeaux, bas-relief qui est aujourd'hui d'ailleurs conservé au musée d'Aquitaine, et guerre de 7 ans qui se termine tragiquement en 1763 et qui est marquée par la perte d'une partie de l'Empire colonial. Alors, est-ce qu'on pourrait rapidement évoquer ces aspects ?
Alors, il y a eu trois grandes guerres sous Louis XV. La guerre de succession de Pologne, auquel a participé Stanislas Leszczynski. Il s'agissait de remettre sur le trône Stanislas Leszczynski. Et au fond, cette guerre n'a pas duré très longtemps et elle a été extrêmement bénéfique pour la France puisqu'elle lui a valu, à terme, la province de Lorraine. On a mis sur le trône d'un duché provisoire Stanislas Leszczynski. La Lorraine appartenait à l'Empire. Au moment du traité, on a donc considéré que ce serait Stanislas qui serait jusqu'à sa mort duc de Lorraine et qu'ensuite la Lorraine reviendrait à la France. Et la France, en même temps que s'installait Stanislas à Nancy, a poussé ses pions en avant, mis un intendant qui était l'adjoint direct du duc et qui a francisé tout doucement la Lorraine gardant pendant très longtemps sa nostalgie impériale. Donc ça s'est très bien passé, et à la mort de Stanislas, eh bien la Lorraine est revenue à la France, donc achevant quasiment l'Hexagone, manquant la Savoie et manquait Nice. La deuxième guerre, c'est la guerre de succession d'Autriche, qui a été difficile, qui a duré 7 ans aussi, comme la guerre de 7 ans qui va suivre, avec un chef de guerre remarquable qui était le maréchal de Saxe, quelques belles victoires, des défaites aussi, mais quelques belles victoires, dont la victoire de Fontenoy, 1745. Et là, se révèle un Louis XV guerrier, combattant. On lui avait appris à ne pas aimer la guerre. Eh bien là, il est un vrai chef de guerre. Il montre son courage, un courage et une grande détermination, alors qu'en temps normal, la moindre maladie lui fait peur, il voit tout de suite la mort qui arrive, il est de ce point de vue presque un malade. Mais là, eh bien, au combat, il a le sang des Capétiens qui coule en lui, et il a envie d'en découdre. Et il va, Napoléon le dira, ce n'est pas le maréchal de Saxe qui a gagné la bataille de Fontenoy, c'est le roi Louis XV. Si Louis XV n'avait pas quitté la petite butte de la justice d'Antoine, d'où il surveillait tout le champ de bataille, au moment crucial où les Français commençaient à céder devant le corps hollandais et anglais qui s'avançait comme un bélier à travers le système de défense et les redoutes qu'on avait installées, et les boulets commençaient à tomber sur la justice d'Antoine, si Louis XV, comme on le lui conseillait, y compris le maréchal de Saxe, il faut se replier, sire, c'est pas possible, vous allez être tué, si Louis XV n'avait pas cédé, avait cédé, par contre, la bataille était perdue. Lui est resté ferme, et c'est grâce à cela que cette bataille a été gagnée. Alors, cette guerre de succession d'Autriche, évidemment, la France n'a pas profité de la victoire obtenue, et elle aurait très facilement pu, le maréchal de Saxe lui-même l'a fortement déploré, annexer les Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de la Belgique. C'était le grand rêve des rois de France, Louis XIV en particulier, occuper les Pays-Bas espagnols à ce moment-là, et les Pays-Bas sont devenus Pays-Bas autrichiens au début du XVIIIe siècle. Eh bien, ces Pays-Bas, c'était ce grand rêve. Et là, Louis XV, avec son éducation religieuse, où il a considéré que bien mal acquis ne profite jamais, là la France avait atteint quasiment ses limites, et bien, surtout avec l'expectative de la Lorraine, il n'était pas question de franchir un pas de plus. Ce qui sera, vous le savez, fait sous la Révolution, sous l'Empire, mais de sorte que, à la suite de belles victoires, et bien, en 1748, au traité d'Aix-la-Chapelle, la France a donné l'impression d'avoir travaillé pour le roi de Prusse, selon la fameuse expression, puisque Frédéric II, lui, notre allié, ne s'est pas embarrassé et a fait main basse sur la Silésie. Et puis la dernière, c'était à la suite de ce renversement des alliances, qui était une nécessité absolue face au danger prussien qui commençait à monter, et à l'entente qui devait se faire avec l'Autriche, c'était une suite de déconvenues, d'échecs, et surtout un affrontement très douloureux avec l'Angleterre. Une incapacité. Alors c'est le grand reproche qu'on fait à Louis XV. Le désastreux traité de Paris, comme on dit toujours, 1763. La France perd la majeure partie de son empire d'Amérique et perd la majeure partie de ses possessions aux Indes. Il faut bien voir que les forces en présence rendaient quasiment inévitables ces désastres. La Nouvelle-France, qui s'étendait de Montréal et Québec à la Floride, à la Nouvelle-Orléans, presque le tiers aujourd'hui du territoire américain, et même au-delà, parce que ça occupait une partie du Canada, eh bien, était peuplée par 100 000 Français. C'est tout. Les 13 colonies anglaises qui se trouvaient coincées dans leur évolution vers l'ouest par les territoires français étaient déjà peuplées d'1 100 000 habitants. Donc, un rapport de 1 à 11. La flotte britannique, très puissante, et dominait déjà les mers. Il y avait à peu près 50 vaisseaux de guerre français pour 110-120 vaisseaux de guerre de ligne anglais. La France avait dû, sous la Régence, s'allier avec l'Angleterre, épuisée par le règne de Louis XIV, par cette guerre de succession d'Espagne qui avait été terrible, par un endettement très, très lourd. La France avait besoin de souffler. Et le régent, très habilement, avec le cardinal Dubois, s'était mis d'accord avec l'Angleterre par un traité de paix. Mais la condition de ce traité de paix, c'était évidemment que la France ne développa pas sa marine de guerre. Donc la France a pris du retard. Si la France avait voulu vraiment constituer un empire sur les mers et être le premier empire des mers, eh bien, elle aurait dû commencer construire cette puissance sous le règne de Louis XIV, ce qu'a fait Colbert, mais de façon insuffisante. La marine française aurait dû à ce moment-là se constituer. Donc on ne peut pas trop reprocher à Louis XV d'avoir perdu face à l'Angleterre parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Elle a, on peut dire, essayer de sauver en gardant les îles à sucre qui étaient plus importantes économiquement à ce moment-là, la Guadeloupe et la Martinique, et puis les pêcheries de Terre-Neuve, Saint-Pierre et Miquelon. Ça n'a l'air de rien, mais ça permettait aux Terre-Neuvas, donc les bateaux qui partaient pêcher les harengs, les grands bancs sur le grand banc de Terre-Neuve, eh bien, de former des équipages et des équipages de la marine militaire. Donc, dans l'espoir de reconstituer une marine militaire, on a conservé, et Louis XV a beaucoup insisté là-dessus, garder ces petits îlots qui ont été très utiles pour la marine de Louis XVI, qui, elle, eh bien, fera la revanche et permettra à l'Amérique de devenir indépendante.
Bien. Alors, je vais poser une dernière question. Dans les dernières années du règne de Louis XV, l'agitation des parlementaires ne cesse de se développer. Il y a la tentative de réforme Maupeou au début des années 1770. Bref, quelle est la situation du royaume à la mort de Louis XV quand on pense que 15 ans plus tard, la révolution éclatera? Donc, est-ce que vous pourriez très rapidement nous présenter cette situation?
Alors, pendant très longtemps, Louis XV a été extrêmement patient avec ses parlements. Il y a eu une première crise en 1730, une autre en 1753-54, exil des parlements, une guerre judiciaire qui s'est prolongée par des grèves de la part des magistrats, des lettres de jution, tout un système de contraintes, des lits de justice, évidemment, le roi venant imposer et aussitôt imposer ses décisions, l'enregistrement des édits rejetés par les parlements, et à nouveau, dès le départ du roi, eh bien le parlement de Paris en particulier, mais aussi le parlement de Bretagne, les autres parlements de province, eh bien s'insurgeaient contre les décisions du roi. Donc il y a une volonté très forte de faire obstacle à un pouvoir modernisateur d'une façon générale. En 1770-71, Louis XV décide de se débarrasser de son principal ministre, qui était Choiseul, qui était un homme tout à fait remarquable, qui a mené aussi la guerre et, en tant que ministre des Affaires étrangères et de la guerre, mais qui était favorable, au fond, à la réaction aristocratique. Donc il se débarrasse de Choiseul et il choisit le premier président du Parlement, Maupeou, qui va, lui, mener à terme une réforme très profonde de la magistrature, suppression des épices. Donc c'est cette somme d'argent qu'on donnait, soi-disant, pour écrire les textes, les procès. Donc c'était une justice qui était plus ou moins achetée. On donnait de l'argent aux magistrats. Suppression des offices. Donc on va faire une magistrature nommée par le roi, moderne, et donc évitant tous ces systèmes très, très, très archaïques. Malheureusement, à ce moment-là, c'était déjà bien tard, on est en 1771, au début de l'année 1771, le roi va mourir en mai 1774. L'évolution des choses est telle que toutes les noblesses coagulent contre le pouvoir royal, on le présente comme un pouvoir despotique, alors que là, il était un pouvoir réformateur. En fait, il y avait deux impasses, il faut bien comprendre ça, et la Révolution va nous permettre de le comprendre. L'impasse du gouvernement des juges, évidemment, ce n'était pas à ces parlements de s'emparer du pouvoir. Et puis l'impasse aussi de la monarchie absolue, parce que la monarchie absolue, elle était peut-être un système de centralisation, de modernisation de l'État face à la féodalité, mais elle n'avait pas de représentation de la nation. Or, à partir de 1715, on voit peu à peu la nation se penser comme un corps politique indépendant du roi. Dans la théorie monarchique classique, le roi ne fait qu'un avec la nation. Louis XVI lui-même réaffirmera ce principe essentiel. Le roi ne fait qu'un avec la nation. Eh bien, la nation, elle se pense indépendante. Et donc, il n'y a pas de représentation de la nation. Si Louis XV avait, en effet, au moment du coup d'État de Maupeou, décidé, au fond, en position de force, d'une représentation de la nation qui n'aurait pas été les États généraux, parce que les États généraux, c'est une vieille représentation archaïque de la nation, avec les trois représentations des trois ordres, alors que la société a complètement évolué, la bourgeoisie a émergé, a occupé les places essentielles dans le secteur économique. Eh bien, ces États généraux, en fait, étaient fondamentalement rétrogrades, puisque les deux premiers ordres, l'ordre du clergé et l'ordre de la noblesse, étaient liés ensemble, la quasi-totalité des évêques étaient nobles et la noblesse, évidemment, s'entendait avec le clergé. Donc c'était le moyen en 1789, quand l'aristocratie et la noblesse de Rome ont exigé la convocation des États généraux, le moyen de tout bloquer et de revenir en arrière. Alors il s'est passé autre chose. C'est la création de l'Assemblée nationale. Ça a été la percée vers la modernité, en quelque sorte. Mais la convocation des États généraux, c'était au départ un mouvement rétrograde. Donc voilà, on peut dire que ce règne de Louis XV, c'est un règne de transition, un règne difficile, avec un roi secret, mais finalement attachant, beaucoup plus intelligent et présentant beaucoup plus d'intérêt qu'on ne l'a dit. Je vais juste finir sur cette phrase de Lavis, le petit Lavis de 1900, pour vous montrer quand même le chemin parcouru dans l'historiographie. Lavis 1900 disant « Il a été le plus mauvais roi de toute notre histoire, ce n'est pas assez de détester sa mémoire, il faut l'exécrer ». Voilà. Alors c'était l'époque aussi du Second Empire colonial et évidemment la perte du Premier Empire a beaucoup joué sur ce point. Merci.